De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben, je vous écoute, parler, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour et bienvenue. Nous n'avons pas pu voir le dernier Cédric Clapiche, pas plus que le deuxième volet de Ça, adapté de Stephen King. On est passé à côté du Jeanne d'Arc de Bruno Dumont, mais que reste-t-il? D'autres films qu'on a vus et certains qu'on a appréciés. Bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour à tous.
Bonjour. Alors, de quoi on va parler?
Pour ma part, moi, un film que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Le mariage de Verida, qui se passe en Mauritanie, une fois n'est pas coutume, et un autre, on va dire un petit peu plus classique, qui s'appelle Fête de famille, de Cédric Kahn.
Et toi Manu?
Un film allemand, The Bra, qui veut dire soutien-gorge, et puis Détour, une reprise d'un vieux film de Edgar J. Ulmer.
Et puis moi, je vous parlerai de La guerre du lait, c'est un film islandais, et puis Des hirondelles de Kaboul, c'est un film d'animation, et puis on aura l'occasion de jouer au premier blind test de cette saison, et ce sera l'occasion de revenir sur les films qui sont sortis cet été. Il y aura 5 extraits de films qui sont sortis cet été à deviner. Voilà, bah c'est Cinérama qui débute avec un film plutôt attendu, parce que Cédric Kahn, c'est un réalisateur apprécié.
This is Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc j'aimerais qu'on ne parle que de choses joyeuses.
Alors, j'aurais pu me contenter de citer Aurel San, hein, en appelant cette chronique « Défaite de famille », ce qui résume à la fois l'histoire et le film. Mais je vais devoir développer un petit peu plus pour vous parler donc de « Fête de famille » de Cédric Kahn. « Fête de famille », film dont le titre est d'une ironie, vous l'aurez compris, totale, vous invite à rencontrer une famille bien dysfonctionnelle avec qui, eh bien, vous n'allez pas beaucoup vous amuser durant 1h40. Andrea, la matriarche, jouée par Catherine Deneuve, que l'on vient d'entendre, s'apprête à fêter son anniversaire dans la maison familiale entouré de ses enfants et de ses petits-enfants. Tout semble se préparer pour le mieux jusqu'à l'arrivée impromptue de Claire, interprétée par Emmanuelle Berco, troisième enfant d'Andrea et seule fille de la fratrie, en proie à pas mal de problèmes psychologiques et qui avait disparu pendant 3 ans. Autour de son retour vont s'articuler de façon assez prévisible pas mal de tensions, de conflits familiaux et de rancunes.
Ça a vraiment un rapport un peu spécial au pognon. Hein.
J'ai l'impression que ça vous arrange bien de penser qu'elle est folle.
Si, je t'assure, elle est 100% folle.
Je vous présente Sébastien, un ami de lycée. On a eu une petite histoire à l'époque, mais maintenant il est agent immobilier et marié.
En fait, je ne suis pas Sébastien, je suis Fabien, son frère.
Je viens faire une estimation de la maison.
Bon, bah alors on vend.
Tu veux pas qu'on en discute tranquillement tous ensemble?
Je fais ce que je veux.
Ça va partir en sucette exactement comme d'habitude.
C'est sur quoi?
C'est sur la famille.
Ah sérieux, vous faites une pièce sur nous?
Ouais, je vais tout balancer.
Alors Cédric Kahn a une filmographie assez foisonnante, hein. Il a pu réaliser aussi bien L'ennui avec Charles Berling ou récemment La prière sur la rédemption d'un jeune toxicomane. Il a coécrit bon nombre de films, il est également acteur, on a par exemple pu le voir récemment dans L'économie du couple de Joachim Lafosse. Ici, il réalise et interprète le rôle d'un des deux fils de la famille, et il le fait d'ailleurs très bien. Dommage qu'il ne s'entoure d'un casting on ne peut plus cliché. Deneuve et la mère Courage, Emmanuelle Berco en route pour le César, et la sœur névrosée, Vincent Macaigne et l'artiste maudit, un peu dépressif et aux cheveux éternellement gras. Bref, rien de nouveau dans le cinéma français. Malgré quelques belles idées de mise en scène qui tentent d'alléger le ton très plombant du film, hein, malgré un bel usage de la musique également, le film aligne tous les poncifs inhérents au film de famille, ce que l'on pourrait d'ailleurs considérer, hein, comme un véritable sous-genre du cinéma français. Le huis clos, les secrets, le crescendo dramatique, tout cela est non seulement attendu, mais en plus assez désagréable à regarder. Le film se complaît dans une véritable hystérie. Ça pleure, ça crie tout le temps, les dialogues sont justes, mais finalement presque trop réalistes, ce qui amène les échanges entre les personnages à rapidement se répéter et à tourner en rond. Le personnage de Vincent Macaigne, qui est donc réalisateur dans le film, dit à un moment... On n'a pas besoin d'histoire pour faire un film, et bien je confirme, c'est un peu l'impression que l'on ressent devant Fête de famille. On en sort complètement mais lessivé après une scène de conclusion particulièrement pénible au cours de laquelle Emmanuelle Berco se tape la tête contre la table, et cela représente totalement notre esprit à l'issue du film.
Eh bien voilà, une déception, c'est pas le cas pour le film islandais dont je vais vous parler maintenant, le combat d'une fermière islandaise contre la toute puissante coopérative.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça c'est clair.
Après Bélier, qui avait remporté le prix Un certain regard au Festival de Cannes en 2015, le réalisateur islandais Gilmur Akonarsson présente Mjölk, la guerre du lait, alors que je vais appeler la guerre du lait pour simplifier. Comme dans son précédent film, il s'intéresse à son pays, l'Islande, et nous emmène dans une région dont on sait juste qu'elle est éloignée de Reykjavik, la capitale où réside l'immense majorité des Islandais. Alors si dans Bélier, le réalisateur s'intéressait à la rivalité entre deux bergers, ici, il s'intéresse à une éleveuse de vaches, Inga. À la suite de la mort suspecte de son mari, avec qui elle avait sa ferme, eh bien, elle décide de s'attaquer à plus fort qu'elle, la coopérative. Alors Inga ne supporte plus le monopole abusif que la coopérative impose aux agriculteurs locaux. Les paysans n'ont d'autre choix que de passer par cette organisation qui, jadis, fut instaurée par les paysans. Alors ceux qui veulent faire venir engrais ou nourriture pour le bétail de la capitale Reykjavik en réalisant des économies, eh bien, sont vite repérés, ostracisés. Une sérieuse pression est ainsi mise à quiconque voudrait s'écarter de la coopérative qui détient à peu près tout dans la région. Elle distribue les prêts bancaires et gère aussi les supermarchés en vous faisant une petite note comme au bon vieux temps. Inga compare cette coopérative qui a forcé jadis le couple à robotiser la ferme à une mafia. Et on n'est pas loin de la croire quand on voit les intimidations auxquelles la fermière a le droit quand elle décide d'écrire un message sur Facebook dénonçant le monopole d'une structure d'un autre âge. Alors au travers de cette critique de la coopérative, qui est en soi un principe d'organisation sain et démocratique, et Inga nous le rappelle quand même, le réalisateur islandais pointe du doigt son pays, son petit bout de terre qui a tendance à se fermer sur lui-même. Par exemple, alors si on ne trouve pas de McDonald's en Corée du Nord, on aurait tendance à le comprendre, on n'en trouve pas non plus en Islande, l'île qui n'est pas pourtant régie par un système socialiste, a tendance à faire des choix radicaux. Mais pour Grímur Akonarsson, qui connaît bien le monde rural parce qu'il en est issu, eh bien, ce qui illustre la guerre du lait, c'est aussi les souffrances d'une population qui se sent délaissée et un espace qui tente à se vider. Les plus vieux voient les enfants partir vers la capitale car c'est là-bas que l'avenir du pays se joue. Alors pour décrire ce monde, le réalisateur islandais nous place dans l'étable, au cul des vaches, dans la boue, mais aussi dans les maisons, au contact de la population. Il s'attarde aussi sur le rapport qu'on s'est gens qui se connaissent tous et que la coopérative divise. Ce deuil qui se transforme en combat pour libérer les paysans du joug de la coopérative donnera aussi l'occasion au réalisateur de faire le portrait d'une femme qui s'est tue longtemps acceptant les désirs de paysannerie de son mari alors qu'elle aurait sûrement aimé faire autre chose. Cette guerre du lait prend parfois alors des allures d'un western neurasthénique. On pourrait s'attendre peut-être à ce que le paysage si atypique de l'île qui accueille le plus grand glacier d'Europe soit magnifié, comme dans d'autres films islandais qui virent à la carte postale Instagram. Mais ici, alors, il n'en est rien. On est face au printemps, sa boue, ses plaques de neige et sa grisaille récurrente. La guerre du lait se voit comme une fable rurale teintée de réalisme. C'est un film que je vous conseille. Il est en salle depuis le 11 septembre. Un soutien-gorge comme fil narratif, c'est ce que propose The Bra, dont va parler Manu.
This is Cinerama.
Je m'excuse, mais c'est aussi simple que ça.
Avec The Bra, Veit Elmer tente de renouer avec l'univers décalé de son premier film, Tuvalu, hommage au cinéma muet centré autour d'un personnage lunaire et étrange, gardien d'une piscine délabrée. The Bra ne ressemble guère à la production allemande contemporaine, ancrée dans le réel à travers des drames psychologiques ou des œuvres revisitant l'histoire du pays d'un 20e siècle chaotique. Déjà, le film ne se situe pas en Allemagne, mais en Azerbaïdjan, cette ancienne république soviétique entourée de montagnes, assez éloignée du monde moderne. Alors, dans un petit village picaresque, un train de marchandises s'avère l'unique attraction d'un environnement coupé de la technologie. Les autochtones vivent à un rythme ralenti, répétitif, reflet d'une monotonie d'une existence paisible entre un travail journalier, une virée au seul café du village et le retour à la maison où les femmes attendent bien sagement leur mari en étendant leur linge. Alors la nostalgie arien conservatrice pourrait rebuter d'emblée, mais le réalisateur nous transporte vers un ailleurs, aux confins d'une poésie naturaliste. La moindre anicroche peut faire basculer ce train-train vers un émerveillement dans cette relecture prolétaire de Cendrillon. La chaussure de verre est remplacée par un soutien-gorge. Le prince charmant, alors n'est pas un beau jeune homme blond, mais un vieux cheminot, Nurlan. Il restitue chaque jour à leur propriétaire le linge qui frappe la vitre de la locomotive. Un jour, il récupère un soutien-gorge et, dans une quête romantique pour briser une forme de lassitude, il se lance dans sa plus grande aventure, retrouver la femme à qui appartient le sous-vêtement. « toujours le regard tourné vers le passé, Veit Elmer reprend les motifs visuels et narratifs de son premier long métrage en l'enrichissant d'un univers absurde, évoquant alors aussi bien le cinéma de Jacques Tati que celui d'un de ses disciples les plus secrets, Lyotard Iosseliani. Alors délesté de la moindre scène de dialogue, The Bra n'est pas pour autant un film muet. Le son, entre le bruit de la locomotive, le rire des enfants, la musique folklorique, trouve une place déterminante dans cette fable pittoresque pleine de bons sentiments, mais n'oublions jamais à quel point les hommes peuvent s'adonner à la violence, à l'image d'une séquence de passage à tabac particulièrement brutale. Alors, le réalisateur observe avec tendresse l'obstination de Nurland dans sa recherche effrénée, recherche qui peut s'apparenter à une quête du désir, le vêtement en question étant évidemment un objet érotisé. Alors, rien de graveleux et de vulgaire n'apparaît à l'écran. Au contraire, The Bra est mu par une surprenante pudeur, le rapprochant parfois d'un conte pour enfants. Alors, bien sûr, le spectateur anticipe les péripéties, se doutant bien que le soutien-gorge va être trop petit ou trop grand, à l'image d'une bague destinée à une princesse. Alors, composé de longs plans larges, savamment cadrés, donnant une sensation d'assister à une succession de vignettes, assez proche de la bande dessinée d'ailleurs, ce beau livre d'images se laisse parfois griser par la monotonie des situations et surtout son dispositif esthétisant. Alors, par moments, le film flirte avec la carte postale touristique, sombrant dans les travers d'un cinéma international exportable, appuyant une forme d'exotisme surfait dans le style, on va dire, grotesque de Kusturica. Mais pour peu qu'on se laisse aller au charme désuet de cette œuvre nostalgique, le voyage mérite amplement le détour. Alors, ne serait-ce que pour les silhouettes ubuesques de personnages habilement dessinés, drôles et attachants, campés par des comédiens épatants. Alors, le corps désarticulé de Denis Lavant, sobre, pour une fois, enfin, si on l'a vu récemment dans certains rôles, se fond admirablement dans un décor magnifié par une photographie très colorée et contrastée. Alors, le Serbe Miki Manojlovic, alors acteur fétiche de Emir Kusturica et visage familier du cinéma hexagonal, aperçu dans, entre autres, Les Amants criminels d'Ozon, Un week-end sur deux de Nicole Garcia ou encore Largo Winch, il endosse avec beaucoup d'émotion et de pudeur ce vieux bonhomme proche de la retraite à la recherche de l'âme sœur. L'épilogue, d'ailleurs, pirouette joliment exécutée, demeure un beau geste de cinéma, confirmant le talent d'un cinéaste singulier, peu connu, mais qui en est quand même à son sixième long métrage.
Merci Manu. Et ce film, The Bra, est en salle depuis le 11 septembre. Et ce n'est pas le cas, quoique certains films qui sont sortis cet été sont encore sur les écrans, ceux qui fonctionnent le mieux et qui sont sortis forcément à la fin de l'été. Ça va être le jeu de cette émission, le blind test spécial film sorti cet été.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinerama.
Je vous adore. Vous êtes la joie de mon cœur.
On commence avec un premier extrait, peut-être que ce sera facile pour vous.
Tu venais au ranch au bon vieux temps tourner des westerns ?
Bah, si le bon vieux temps pour toi, c'est le monde de la télé d'il y a 8 ans. Ouais.
T'es acteur ?
Non, je suis cascadeur.
C'est mieux. Carrément mieux, cascadeur.
En quoi c'est carrément mieux ?
Les acteurs sont bidons.
Oh.
Ils sortent un texte que d'autres gens ont écrit et font semblant de tuer des gens dans des feuilletons à la con. Et pendant ce temps-là, il y a des vrais gens qu'on tue tous les jours au Vietnam.
Donc ça a été trouvé, c'est...
Once Upon a Time in Hollywood.
Oui, le film de Quentin Tarantino, donc, qui est normalement... Eh bien,
qui est toujours en salle.
Encore dans certaines salles, on va dire. Allez, un deuxième extrait.
Bonsoir. Je m'appelle Debra Hammer. Je suis la manager de Ed. Il faut qu'on parle.
Oui. En fait, il se trouve que j'ai déjà une manager en Angleterre. Oh. Non, mais oui, il faut qu'on parle, oui.
D'accord, super. C'est super. Ok, bonne nuit, on se voit à Los Angeles.
À Los Angeles ?
Oui, il va falloir que tu viennes jusqu'à LA. Nous, on paie. Ensuite, toi, tu viens, tu écris des chansons. Et nous, on les lance et tu gagnes une tonne de fric. Et nous, on te reprend presque tout. J'ai une petite question. C'est le mieux que tu puisses faire niveau physique ?
Alors, je ne l'ai pas vu, mais je pense avoir reconnu Yesterday de Danny Boyle.
Oui, film sorti début de l'été, c'était le 3 juillet. C'est Jack qui se réveille dans un monde où il découvre eh bien, que les Beatles n'ont jamais existé. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il chante les Beatles et devient célèbre. Voilà. Uchronie. Allez, un nouvel extrait.
Dis-moi, Penny. Pourquoi les femmes font-elles de meilleurs escrocs que les hommes ?
On a l'habitude de simuler ?
Eh bien, ça se résume à une vérité universelle. Aucun homme ne pense qu'une femme est plus intelligente que lui. Nous sommes sous-estimés à vie et c'est de ça qu'on se sert.
Donc ça veut dire que tu vas m'apprendre.
Je suis déjà en train.
Yes ! Ouais ! Attends, tu m'as dit quoi juste avant ? J'ai rien entendu, t'étais en train de discuter avec l'eau.
Alors, ça a presque été trouvé, tu l'as
moi,
presque...
Moi, j'aurais dit un coup de maître,
hein, c'est bien sûr, avec Anna Tawai. Le coup du siècle, là.
Oui, oui, trouvé,
c'est
Manu.
C'est le coup du siècle,
c'est ça.
Ouais. Ouais.
C'est ça, coup du siècle, sorti le 17 juillet avec deux femmes escrocs. Voilà, bah, la critique a quand même...
Été un peu mitigée, il me semble.
Était cinglante, oui. Voilà, allez, quatrième extrait.
Tous les élémentaux sont ici, ils attaquent aux mêmes coordonnées, nos satellites le confirment.
Notre mission est simple, le tuer. Et tu vas venir avec nous.
Monsieur Fury, c'est une mission qui rigole pas. Vous savez, c'est un chantier pour super-héros de premier plan. Et... je suis que la petite araignée sympa du quartier, monsieur.
Pas à moi, tu reviens de l'espace.
Je sais, mais c'était un accident. S'il vous plaît, il y a forcément quelqu'un d'autre. Et je sais pas, Thor ?
Hors monde.
Ok, Doctor Strange.
Indisponible.
Captain Marvel ?
Ne prononce pas son nom.
Ça a été trouvé, Manu.
C'est le nouveau Spider-Man.
Oui. Far From Home, loin de chez lui. Effectivement, il est en Europe, mais sans sa tenue. Et il se trouve que des créatures attaquent, mais ce n'est pas ça qui va l'arrêter. Voilà, Spider-Man. Allez, un dernier extrait pour ce blind test spécial film de l'été.
Vous savez toujours, vous, si un suspect est coupable ou innocent ?
Toujours.
Comment vous faites ?
Je sais pas. J'essaie de penser comme eux.
Vous avez été flic ici ?
Ouais.
Et après ?
Après, 2 ans de formation à Saint-Cyr, au Mont d'Or.
Vous avez une famille ?
Non. Bah si. Tout le monde a une famille.
Ils doivent être fiers de vous.
Pourquoi ?
Vous voir commissaire ? C'est beau.
Mon grand frère habite plus ici, et tout le monde est rentré au bled.
Toute la famille ?
Tous.
Ah oh. Pourquoi ?
Mauvaise question. La question, c'est pourquoi moi, je suis resté. Voulez-vous que j'aille ? Ici, c'est toute mon enfance.
Bon, on avait déjà passé l'extrait dans l'émission, ça a été trouvé.
C'était Roubaix une lumière de Desplechin.
Avec Roche Dizem et Antoine Reinhardtz. Ainsi s'achève ce blind test. Allez, on poursuit l'émission avec l'actualité du cinéma et les hirondelles de Kaboul.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Et croyez-moi, ce ne sera pas long.
T'es folle, t'as mis tes chaussures blanches.
Oh, ça va.
Mais tu sais bien que c'est interdit.
Et t'inquiète, on voit à peine mes pieds.
Ce qu'il y a de bien à Cannes, c'est qu'on peut sortir d'une projection et tendre l'oreille pour ausculter comment un film a été reçu. Et on peut même discuter des films avec les spectateurs les plus ouverts. Je me souviens qu'en sortant du film d'animation Les Hirondelles de Kaboul, présenté en compétition Un certain regard, eh bien une journaliste tunisienne a fait la moue quand je me suis montré enthousiaste. Selon elle, ce film arrivait trop tard et son sujet n'était plus actuel. Sous-entendu, il y a mieux à faire. Alors il est vrai que Les Hirondelles de Kaboul fait un sacré saut en arrière. Nous sommes plongés l'été 98 dans la torpeur de la capitale afghane qui est sous le joug des talibans. On y suit 2 couples et quelques personnages. Alors d'un côté, il y a un jeune couple amoureux, Mohsen et Zunaira, qui rêvent eh bien, d'un avenir meilleur, et de l'autre, eh bien, le vieux gardien d'une prison et sa femme très malade. Les Hirondelles de Kaboul se voient eh bien, comme une fable morale sur une société liberticide. Et là où Les Hirondelles de Kaboul prend toute sa force, eh bien, c'est évidemment dans la description de cette société fermée, liberticide et obscurantiste.
C'est toi, professeur Arash Bayazid, bonjour. Je suis désolé, je vous ai fait peur, mais je viens là tous les jours, je vous ai jamais vu. Vous étiez parti pour un colloque ?
Tu rigoles, plus personne ne quitte ce pays, c'est fini. Je viens très peu ici, trop de tristesse. Mais je récupère des papiers et des livres. J'enseigne encore.
À l'école coranique ?
Oui. Entre autres.
J'aimerais t'en enseigner, mais je ne peux pas le faire à l'école coranique. L'histoire est tronquée, menteuse. Je veux pas retourner la tête de jeunes enfants.
Chut, Mohsen ! Mais tu sais qu'il y a une autre école.
Ah bon ?
Une école secrète, où l'on arrive à apprendre aux enfants la littérature, l'art, l'histoire, la fraie. On a besoin de gens courageux et cultivés comme toi. Tu es payé par l'école coranique, mais tu donnes ton cœur à l'école de la vie.
Je sais pas, je... Avec Zunaira, on voudrait quitter le pays.
Parle-lui à elle aussi qu'elle puisse venir dans cette école. Je comprends votre désir de liberté, mais est-ce qu'il ne faut pas rester et se battre de l'intérieur pour nos valeurs profondes, pour ce pays qui a tant souffert en sauvant ses enfants ?
Alors, on y voit que faits et gestes sont scrutés et susceptibles d'être punis à tout moment. Par qui a de l'autorité ? On voit une séquence insoutenable hein, où la jeune Zunaira doit porter le le voile intégral pour traverser la ville sans encombre. Et ce qui, au départ, était un subterfuge, eh bien, devient vite un supplice. Car l'un des thèmes forts de ce film d'animation, dessiné en aquarelle, c'est la violence faite aux femmes. Alors rien d'étonnant qu'il soit porté par Zabou Breitman et Eléa Gobé-Mévélec. Et on rappelle qu'il s'agit de l'adaptation du best-seller homonyme de l'auteure algérienne sous pseudo Yasmina Kadra. Puisque c'est un homme finalement qui se cache derrière ce pseudo. L'écriture comme le dessin laisse entrevoir autre chose que la description d'un état totalitaire et féminicide. La bande sonore accompagne solidement les dessins, le parti pris d'un récit lent est assumé pour mieux assurer une description du réel et les réactions des personnages. Dramaturgie et suspense s'articulent tout au long de ce film d'animation pour adultes dont la qualité est de s'en tenir à son sujet en saupoudrant le récit d'une dose de romanesque. S'il n'y a aucune audace visuelle, même si on retient quand même les dessins, eh bien l'animation est suffisamment fluide pour nous absorber.
T'es folle, t'as mis tes chaussures blanches.
Oh, ça va.
Mais tu sais bien que c'est interdit.
Mais t'inquiète, on voit à peine mes pieds. Oh là là, j'ai tellement soif, j'étouffe là-dessous.
Attends.
Hey, petite. Hey.
Hey, Tata. Je peux aller avec Samir aujourd'hui?
Non, mais chérie, c'est pas Tata. C'est juste son tchadri, elle me l'a prêté. Moi, je suis Zunaira, sa voisine.
Ah, d'accord.
Bon, alors, j'ai soif.
Tiens, attends, je vais t'aider.
Non, je te bouge pas. Mais c'est pas ma bouche, c'est mon nez.
Concentre-toi aussi.
C'est n'importe quoi. Attention. Mets pas. Attends. Tu m'en fais partout.
Arrête. Attends, non, s'il te plaît.
Laisse-moi faire.
Oh, vous riez pas, c'est interdit, stop.
Chut. Tu vas aller à la mosquée, j'ai écouté le prêche, dis-moi là-bas, chien. Ça te remettra les idées en place.
Je dois amener mon épouse chez Sébastien.
Toi, tu l'attends contre le mur, là. Et tu ôtes ça ! C'est interdit, les chaussures blanches.
Les Hirondelles de Kaboul, donc c'est un film d'animation en salle depuis le 4 septembre. Tout comme le film Le mariage de Verida.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Initialement intitulé Flesh Out, que l'on pourrait traduire par Toute chair dehors, le mariage de Verida prend place en Mauritanie où l'on retrouve encore de nos jours une tradition assez particulière, celle du gavage. Verida est une jeune fille qui travaille dans un salon de beauté et elle est tiraillée entre tradition et modernité. D'un côté, elle écoute Shakira avec ses amis, de l'autre, elle accepte que ses parents lui organisent un mariage avec un inconnu. Et pour la rendre appétissante aux yeux de son futur mari, la coutume veut qu'on lui fasse manger 10 repas par jour afin de lui faire prendre un maximum de poids, au point de la réveiller la nuit pour la faire manger. On la gave ainsi de viande de chameau et de gamelle de lait, à tel point que de simples actions du quotidien, comme le fait d'aller chez le boucher ou de voir du lait être versé dans une assiette, devient une vraie torture pour Verida comme pour le spectateur. On comprend d'ailleurs que cela peut aller encore plus loin, hein, si les jeunes femmes vomissent, on leur fait réingurgiter ce qu'elles ont vomi de force. Certaines achètent des pilules pour grossir. Le film sous-entend même que certaines filles meurent du gavage ou se suicident. La réalisatrice Michela Occhipinti, qui est italienne et qui vient du milieu du documentaire, dépeint très bien cette génération qui est certes encore soumise au patriarcat, mais pas victime. On ressent chez cette jeunesse mauritanienne eh bien une certaine modernité, une certaine liberté. Même si l'un des personnages subit le gavage, un autre eh bien, veut faire une liposuction ou une autre encore se blanchir la peau. Tandis que pendant ce temps, eh bien, en Occident, l'obsession est au bronzage et à la minceur. Alors il aurait été facile pour la réalisatrice de se poser en sauveuse occidentale, mais le regard qu'elle pose sur ces jeunes mauritaniennes est très pudique. Et bien que la caméra soit au plus proche des personnages, eh bien, la mise en scène garde une distance sensible, notamment sur sa jeune interprète principale. Michela Occhipinti, avec le mariage de Verida, ne cherche pas à fustiger un pays ou une tradition, mais plutôt à mettre en avant le fait eh bien, que ce soit toujours les corps des femmes qui soient victimes des traditions et des dictats de beauté. Et elle arrive très très bien à faire passer ce message.
Merci Marine. On termine cette émission avec une reprise du début du mois d'un film qui date de 1945. C'est Détour.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Dès les premières images fascinantes, entrées magiques dans un no man's land désenchanté, Détour emprunte la structure classique du film noir. Un homme au regard épuisé et désespéré est assis au comptoir d'un bar. Il entend au jukebox une chanson qui le met dans tous ses états, faisant ressurgir un passé récent. La caméra se rapproche de son visage, le plongeant dans les ténèbres par un superbe fondu enchaîné, ne laissant apparaître que ses yeux vitreux. Alors le plan est absolument sublime, quintessence de l'art d'Edgar J. Ulmer. capable de créer des formes singulières à partir de rien. Et ce personnage se souvient, la voix qui semble alors s'adresser au spectateur débute par ces mots, cet air à croire qu'il me poursuivait. Puis la caméra se détache et par un mouvement d'appareil ingénieux se faufile vers le tourne-disque. La musique sert de catalyseur à un long flashback, descente aux enfers d'un homme ordinaire, pathétique, mais désespérément humain. Tout le talent inouï du cinéaste d'origine tchèque est concentré en quelques plans concis et virtuoses, entièrement animés par un récit haletant, jamais pris à défaut par un moment de répit. L'histoire de Détour est bien celle d'un détour, d'une dérive, d'un pianiste fauché, frappé par la malchance, la poisse. Al Roberts part en stop, rejoindre sa fiancée, chanteuse de cabaret en Californie. Sur la route, il est pris par un certain Charles Haskell. Prenant le volant, Roberts poursuit son tracé sans se douter que le destin en a décidé autrement. Haskell, escroc notoire en passant, décède dans son sommeil. Un mauvais choix entraînant un mauvais choix, il décide de l'enterrer et de prendre son identité. Mais il commet une erreur, il s'arrête prendre une autostoppeuse. Vera, femme fatale plutôt quelconque, jeune et jolie mais sans charme, elle reconnaît la voiture d'Haskell et commence à faire chanter le pauvre pianiste, l'entraînant alors dans une spirale de la violence. D'une noirceur sans équivocité, Détour reflète la manière dont Ulmer, que l'on pourrait apparenter à un Ed Wood super doué, auteur de 45 films au budget les plus étriqués les uns que les autres, la façon dont il perçoit le monde, un univers plongé dans le chaos, régi par les forces du mal, un désert mental fait de souffrance et de supplice où la lumière n'apparaît jamais. C'est sans doute pour cette raison qu'Ulmer a principalement sévi au sein du cinéma de genre, essentiellement donc le fantastique, notamment avec Le Chat Noir, et le film noir. Alors même si on peut considérer que son meilleur film, bah ça reste un western, c'est le vraiment génial, Le Bandit. Alors ramassé en 1h07, Détour porte les stigmates, on va dire, de l'expressionnisme allemand par un cinéaste formé d'ailleurs par Murnau. Le noir et blanc contrasté et les décors minimalistes mais inquiétants absorbent les personnages attirés bien malgré eux par le mal comme une fatalité. Alors le film regorge de scènes cultes à l'instar de celle du téléphone, bon, que je ne dévoilerai pas, hein, qui est d'une ironie cinglante. Le rythme habite ce film très court, endiablé, sorte de roi de movie épuré et furieux, d'un nihilisme peu commun à l'image du très curieux épilogue final, image mentale issue de la psyché torturée de l'anti-héros. Alors un chef-d'œuvre réalisé, à mon avis, par un des génies secrets du cinéma américain et qui ressort enfin après des années où on a pu le voir dans des copies absolument atroces, dans une copie restaurée et enfin en salle.
Voilà, donc le plaisir de la salle reste intact.
C'est fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Non, si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
Marine, la semaine prochaine, tu auras rencontré Javier Zi, on l'écoutera.
Oui, tout à fait, pour son nouveau film Tu mérites un amour, dont je vous parlerai également. Et je vous parlerai d'un film que j'avais vu à Cannes et que j'avais beaucoup apprécié, Portrait d'une jeune fille en feu de Céline Sciamma.
Voilà, deux réalisatrices. C'est toi, Manu.
Un documentaire sur une artiste japonaise, Kazuma Zi Infinity. Et puis, je vous parlerai certainement de ça.
À la semaine prochaine.